Là-dessus, nous allons accueillir notre chroniqueur environnement, Jean Paquin. Bonjour, Jean.
Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver.
Ah ben oui, moi aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, alors nous avons parlé du cycle urbain de l'eau, des manières d'économiser cette ressource ainsi que de l'état de notre fleuve et de nos autres cours d'eau. On a parlé justement des fameuses algues bleues la semaine dernière. Ben nous parlerons aujourd'hui d'un phénomène bien connu mais redouté au Québec, les inondations.
Oui. On a vécu des périodes importantes d'inondation au cours des dernières années. Ce qui était exceptionnel auparavant semble être de moins en moins. On le voit au Québec, mais aussi un peu partout dans le monde. Quelques exemples des inondations sévères en Europe en 2021. En Chine, en juin dernier, au Kentucky, il y a 10 jours à peine.
Mais oui, c'est tout récent, ça. On en parle régulièrement hein, de ces inondations. En Asie du Sud-Est, pas la peine de le dire, hein, c'est sûr. Puis il y a des crues importantes. Il y a eu des crues importantes ici au Québec aussi.
Oui, en 2017 et en 2019, moi, on était passé des vacances dans le coin des Mille-Îles à Gananoc, en Ontario, et puis les quais étaient 2 à 3 pieds sous le niveau de l'eau, ce qui est absolument normal. Alors, le bassin des Grands Lacs, le fleuve, l'Outaouais ont eu des niveaux records en 2017 et 2019 avec des inondations historiques. On se souvient aussi des inondations le long du Richelieu en 2011.
Mm-hmm,
je faisais
absolument.
Partie d'une équipe de bénévoles pour aider les gens à récupérer leur maison, leur résidence secondaire dans ces lieux-là.
Alors, ah oui, c'était assez impressionnant. Je me souviens très, très bien, effectivement. Donc, les causes des inondations, elles sont quand même nombreuses. Hein? Ça, on peut peut-être justement en parler de ces causes. Et puis, ça pourrait être même des sécheresses importantes qui sont suivies de fortes pluies. Et là, ben, souvent, c'est le cas hein, dans des pays comme ça qui connaissent une sécheresse importante. Et puis là, avec des pluies torrentielles, ben, ça y est.
Ouais, il faut comprendre qu'avec les changements climatiques, il y a plus d'énergie dans l'atmosphère, plus d'événements extrêmes de toutes sortes, qu'on parle de sécheresse ou d'inondation ou de pluies sévères. Alors, les premières causes, évidemment, ce sont les pluies abondantes. Maintenant, on est en région nordique et il y a une accumulation de neige importante durant la saison hivernale, mais quand ça fond, et que c'est combiné avec des pluies plus abondantes, ben, on a souvent des inondations. Il y a l'organisme Uranos qui travaille là-dessus, qui mm-hmm. fait des prévisions. Eux, ils prévoient davantage de précipitations en hiver et au printemps lors des années à venir. Donc, ce qui n'améliorera pas la situation.
Effectivement. Il y a des embâcles aussi qui peuvent se former. Alors, au moment du dégel?
Oui, quand les rivières coulent, en particulier du sud au nord, ça fond en amont, là, au sud, pendant que c'est encore gelé en aval au nord, ce qui crée des bouchons. Et évidemment, l'eau qui n'a nulle part où aller, elle s'en va sur les deux bords et puis elle va inonder des terres agricoles, des villages, des résidences. Alors, c'est un phénomène qui est bien connu au Québec en particulier.
C'est ça. Et puis, on parle du fleuve, les grandes marées également?
Oui, on a en avril, au mois de mai, des grandes marées, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques.
Non,
mais effectivement,
c'est sûr,
avec
mais...
la montée du niveau des océans cette montée-là est due au changement climatique, mais ça va créer des problèmes qui sont plus importants. Quand on regarde, par exemple, la calotte glaciaire du Groenland qui est en train de fondre, c'est pas pour demain matin, mais dans 100 ans, 150 ans,
ouais,
dans 200 ans.
Ça va très vite.
On parle d'une augmentation du niveau de l'océan de 7 mètres.
Ouais, c'est assez affolant hein, quand on voit ça, la fonte des glaciers, là, une vitesse quand même ouais, très importante. Bon, évidemment, il y a d'autres phénomènes, les ouragans, les tsunamis, mais ça, c'est toujours en lien avec c'est ça, la montée des eaux dans les océans.
Oui, on se souvient tous de Katrina. Il y en a qui sont peut-être trop jeunes pour s'en souvenir, mais en 2005, la Nouvelle-Orléans a été dévastée avec... l'ouragan Katrina. Il faut comprendre que la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui est construite en grande partie sous le niveau de la mer. On ne pourra plus tellement se permettre de faire des choses comme ça avec la montée des océans. Mais les ouragans deviennent plus fréquents, une saison plus longue, plus violente, et évidemment, ça cause des inondations aussi. Les tsunamis, on a vu ce qui s'est passé au Japon avec ou encore en Indonésie. En 2004, au Japon, avec les centrales nucléaires qui ont été inondées. Ça n'a rien à voir avec les changements climatiques, mais c'est un autre facteur qui crée des inondations.
Alors, tous les effets combinés, au fond, C'est ça le problème. Ils sont multiples, ces causes. Donc, et puis, les solutions, là, pour s'adapter à cette nouvelle réalité, il faudra bien s'adapter forcément parce que là, il va y avoir de plus en plus d'événements météo au cours des prochaines années, des prochaines décennies et tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, il faut penser de sortir les structures permanentes vulnérables des zones inondables. Les personnes qui veulent avoir leur chalet juste sur le bord de l'eau, ben, et il va falloir que ces personnes-là aient un plan B, qu'elles réalisent que c'est pas anormal d'avoir des inondations, qu'il faut se doter davantage d'équipements d'urgence, des pompes, des boyaux, des bateaux, pour le moment où ça arrive. À grande échelle, il faut repenser aux aménagements riverains. Il faut retourner à la nature. Beaucoup d'endroits dans lesquels il y a des murets, il y a des structures qui ont été mises en place parce que les zones végétalisées agissent comme zones naturelles tampons plus efficaces pour absorber la montée du niveau de l'eau. Ça veut dire qu'il faut retraiter un peu au point de vue de nos aménagements humains.
Oui, c'est ça. Puis en fait, il faut quand même avoir déjà cartographier peut-être les zones inondables. Hein? Il faut les avoir bien identifiées.
Oui, il y a un travail qui reste à faire là-dedans. Après les inondations de 2017-2019, le gouvernement du Québec a pris l'initiative d'améliorer ce qui se fait comme cartographie. Et puis ça, c'est disponible sur le site web du ministère de l'Environnement, sur le site web de Ouranos, de façon à ce qu'on comprenne mieux quelles sont les zones inondables, pas seulement inondables parce qu'elles sont trop basses, mais aussi inondables parce que des fois, il y a des structures humaines, des digues, il y a des barrages.
C'est ça, susceptible. On a vu ça dans le secteur de Pointe-Calumet, là.
Oui, puis on a vu ça aussi au Saguenay, là, lorsqu'il y a eu l'inondation avec le barrage de la rivière Chicoutimi.
Exact,
qui a été cédé.
Ça a été épouvantable.
Alors, il faut comprendre que ces structures humaines-là ne sont pas infaillibles. Et puis, les gens qui sont en amont ou en aval de barrières doivent s'attendre d'avoir des désagréments lorsque ces équipements-là, ces aménagements-là ne font pas exactement leur travail.
C'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, toute la construction, la construction en zone inondable, enfin, revoir tout ça. Et puis, les équipements, enfin, bref, plein de choses, évidemment, dont on pourrait discuter encore longtemps. Notre prochaine chronique, Jean, portera sur le verdissement des villes, je pense, la semaine prochaine.
Oui, c'est ça.
Bon, alors on en parlera la semaine prochaine, j'ai bien hâte. Merci beaucoup, Jean. Et
au
puis
revoir.
À la semaine prochaine.
C'est bien, bye-bye.
Ben oui, passez une bonne semaine.